Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on redécouvre ma série préférée, Twin Peaks. Je m'appelle Anaïs Bordage et ça fait maintenant des semaines que je torture Marie avec cette série absurde et onirique à laquelle elle n'est pas toujours très réceptive. Comme David Lynch et Mark Frost, après la fin de Twin Peaks saison 2, on a voulu faire un petit break, alors certes un peu moins long, on n'a pas attendu 26 ans, mais pour ne pas vous laisser démunis en attendant le retour d'Ami pour parler de Twin Peaks The Return, on vous a préparé ce petit épisode bonus dans lequel vous allez retrouver certains des meilleurs moments de notre saison. Vous y trouverez toutes les questions de Marie qui s'interroge face à cette série, toutes ses meilleures réactions, toutes ses prédictions, et vous le savez déjà, elle en a fait d'excellentes, des prédictions, et aussi toutes nos meilleures théories du complot. Il y aura aussi des témoignages de certains et certaines d'entre vous, et on a été vraiment très très touchés par vos messages. Donc voilà, on espère que ce petit épisode vous fera plaisir, et on revient la semaine prochaine avec Twin Peaks The Return, et je pense que ça va envoyer du lourd. Qu'est-ce que tu sais de la série ?
Alors, ce que je sais, je sais que c'est l'histoire d'une disparition de Laura Palmer. Et la question, c'est genre, qui a tué Laura Palmer ou qu'est-ce qui est arrivé à Laura Palmer, un truc comme ça. Et je sais aussi qu'il y a, comment il s'appelle, le mec qui jouait le mari de Charlotte impuissant dans Sex and the City. Et je sais qu'il mange des tartes à la cerise ou un truc comme ça, qu'il boit beaucoup de café.
Oui.
Et qu'il y a un diner, du coup. Enfin, ils sont au bord d'une route.
Ok, sur l'intrigue, c'est tout ce que tu sais.
Je sais aussi que dans la dernière saison, il y a un épisode où on traverse l'espace-temps continuum. Je sais pas trop quoi. Et qu'il visite des planètes ou je sais pas quoi. Un peu un truc comme The Tree of Life, mais version Twin Peaks. Parce qu'une fois, tu avais écrit tout un... On avait fait un papier sur les meilleurs épisodes de l'année ou des 20 dernières années. Et tu avais mis celui-là et j'avais rien compris.
C'est quoi, selon toi, les thèmes qui sont évoqués dans la série?
Je sais pas, moi, le travail de... Enfin, la menuiserie, peut-être, à travers la Log Lady. Honnêtement, j'en ai aucune idée, quoi.
Enfin, t'es pas loin.
C'est vrai. Les thèmes... Moi, je supposerais aussi que Cal Machin, il a une histoire d'amour avec la fille avec le rouge à lèvres rouge, ou une histoire où il est tenté, quoi. Mm. Mais peut-être que c'est elle qui a tué Laura Palmer. J'ai tendance à adorer les comédies et j'associe beaucoup Twin Peaks à quelque chose d'assez existentiel, un peu absurde. Et c'est pas forcément ce genre d'œuvre qui m'attire naturellement. Et il y a un dernier niveau où il faut que j'admette, c'est un peu comme quand j'étudiais l'écho à Sciences Po, où j'ai jamais passé 10 minutes pour relire mes cours parce que je comprenais au fond de moi que j'allais être nulle. Et que je préférais me dire que c'était par manque d'investissement et de travail que j'étais nulle, et pas parce que je ne comprenais rien à rien à l'économie. Et c'est un peu ça avec Twin Peaks, où je me suis dit, si je le regarde jamais, je pourrais jamais dire que j'ai rien compris. Mm-hmm. Voilà. Parce que je suspecte que je ne vais rien comprendre.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Hein?
Pourquoi il y a un nain qui tremble?
My arms...
J'ai l'impression d'être dans un trip sous acide. Mais what the fuck? Oh, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce délire? Oh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non! J'ai des questions.
Si merci.
C'est ça ta prochaine question, j'ai des questions.
Vas-y, fais tes questions. C'est bien, j'ai même plus à parler en fait, elle est en pilote automatique. Vas-y, je vais faire une petite sieste et puis tu me réveilles à la fin.
Est-ce qu'il n'y a qu'un seul psy dans cette ville?
Oui, et malheureusement pour eux, c'est Dr Jacoby.
Bon, il n'y a personne pour débrancher Léo. Franchement, je ne comprends clair. Pas que personne n'y pense, quoi. C'est tellement facile, c'est juste une prise.
C'est clair.
Et on serait débarrassé. Pourquoi est-ce qu'ils boivent tous du lait le soir avant de dormir? Est-ce qu'ils ont tous 8 ans? Et comment est-ce que leur système digestif tolère une telle agression, en fait? Comment est-ce que Cooper connaît le goût du laxatif pour bébé? Parce qu'il le reconnaît. Et aussi, Il prend quand même beaucoup de laxatifs pour bébé.
Oui, il en prend beaucoup.
Et je me suis dit, quel effet ça a eu?
Parce qu'est-ce qui s'est passé dans les scènes suivantes?
Voilà. Parce que je sais qu'en même temps, c'est pour bébé, donc le dosage est plus bas, mais je pense que bon, s'il était constipé, il est plus, quoi. Elle a combien de nuisettes en satin, Josie?
Énormément.
Pas assez.
On sent la division homme-femme sur cette question.
C'est quoi tous ces gens qui tombent amoureux au bout de 48 heures?
En vrai, moi, je tombe amoureuse toutes les 48 heures.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre problème, Anaïs. Quel produit de nettoyage est-ce que Liland utilise pour nettoyer sa moquette? Parce que c'est hyper efficace.
C'est vrai.
Franchement, il n'y a plus une trace du meurtre. Bah, la nonne, quand elle sort du couvent, elle va demander un cocktail et on lui fait un rum and tonic. Vraiment, ils veulent qu'elle retourne dans son couvent, en fait. Ils veulent la traumatiser
c'est
à clair. Vie.
C'est pas une question, mais...
Ah oui, non, c'est vrai. Et ils lui font un rum and tonic. Voilà. J'ai mis « Où est Diane ?» Qui est Diane ?» Et Diane ? Est-ce qu'elle existe vraiment, Diane ?
Il y a deux choses que j'avais jamais remarquées avant que tu me les fasses remarquer. C'est le satin et le lait.
Ah, c'est vrai ?
Et maintenant, je vois que ça, en fait.
Ouais. Une petite obsession.
Ouais.
Je pense que Josie, elle va pas faire long feu.
Pourquoi ?
Bah parce qu'elle est un peu menacée par Catherine et par Horn. Et qu'elle suspecte qu'ils se sont peut-être débarrassés de son mari, son défunt mari. Surtout, le shérif lui a promis qu'il ne lui arriverait rien. Et en règle générale, quand tu promets ça, il arrive forcément quelque chose. Donc, je m'attends à ce qu'il lui arrive quelque chose de pas très bien.
Tu as plein de suspects, mais à ton avis, si tu devais parier de l'argent dessus, qui a tué Laura Palmer ?
Moi, je vais aller très loin. Je vais dire le père de Donna. Après, ça peut être son père à elle aussi. Parce que souvent, hein, dans les affaires comme ça, c'est souvent quelqu'un de très proche de la famille. Moi, j'ai une théorie qui est un peu folle. Ce qui se passe dans cet épisode, quand même, c'est que Liland tue Jacques Renaud. Et d'une façon assez méthodique. Ce que je me demande, c'est qu'on voit quand même une grosse violence de la part de Liland, qui est compréhensible, encore une fois, parce que c'est un père qui vient de perdre sa fille. Je me demande si, peut-être, il n'avait pas surpris Laura dans ses activités illicites, et si peut-être ça l'a pas rendu un peu fou, et si peut-être il n'a pas tué lui-même sa fille. Liland qui reconnaît Bob, entre parenthèses, Fight Club, point d'interrogation, parce que ma théorie maintenant, c'est qu'en fait, Bob, c'est un peu le Brad Pitt d'Edward Norton dans Fight Club, et Edward Norton, c'est Liland, tu vois. J'aime beaucoup Liland, même si je le suspecte d'avoir tué sa fille, mais...
Mais à part ça, on l'aime bien.
L'ouverture de l'épisode 4, on entend des bruits de train, des cris, et les mots Liland et Daddy. Mm-hmm. Et c'est de la perspective de Liland. Ce qui, encore une fois, est assez intriguant, sachant que Laura a été tuée sur un train. Laura, elle avait beaucoup de problèmes. Tu te demandes d'où ça vient quand même, parce que normalement, elle a des parents qui ont l'air assez équilibrés. Ce qui confirme encore ma théorie de Liland, il y a quelque chose... C'est pas net.
Marie, notre novice de Twin Peaks, a réussi à résoudre le meurtre avant l'agent Cooper.
Ouais, l'agent Cooper, elle a toujours pas résolu. Donc.
Bah, c'est ça, donc c'est avant, techniquement.
J'étais hyper enthousiaste et très fière de moi. J'avais raison. Oh putain, j'avais raison. Oh, qu'est-ce que ça t'a fait d'être amie avec quelqu'un qui a compris très très tôt?
Bah, c'était hyper saoulant. Même quand elle donne des réponses au pif, Marie résout aisément les mystères de Twin Peaks, puisque la semaine dernière, je t'ai demandé à ton avis qui était M.T. Wentz, le critique gastronomique anonyme, et t'as répondu totalement au pif, et tu avais raison. Est-ce que tu as une théorie sur qui est le critique gastronomique? Parce qu'on pensait que c'était Monsieur Tojamura, mais Monsieur Tojamura, c'est Catherine, donc...
Je sais pas, moi, j'ai pas réfléchi. Ah, c'est la mère de Norma, allez. Oui, ce qui est drôle en plus, c'est que comme c'était tellement au pif, que quand j'ai regardé l'épisode et que c'est révélé, je me suis dit, tiens, je crois que j'ai dit ça, mais je suis pas sûre. Du coup, je t'ai appelée et j'étais là, est-ce que j'ai dit ça? Et t'étais là, oui, connasse, j'en peux plus, tu as dit ça.
Sérieusement, enfin, toute la beauté de Twin Peaks, c'est qu'il y a des mystères et il n'y a plus aucun mystère avec Marie, ça me saoule, elle est surprise par rien, quoi.
Ça t'énerve quand je devine. Hein.
Ouais. Mais en fait, ça m'énerve, mais je pense que c'est surtout, au final, je suis déçue parce que je pensais que tu serais beaucoup plus surprise par plein de choses dans la série et au final, pour l'instant, t'as toujours un peu un pas d'avance sur la série et je trouve que c'est remarquable, enfin, c'est vraiment impressionnant. Mais du coup, moi déjà, je développe un complexe parce que je me dis, bah moi, j'aurais sans doute pas été aussi intelligente si ça avait été dans l'autre sens. Littéralement, moi, je comprenais pas ce qui se passait entre Joey et Rachel, quoi. Donc... Et il y a un autre rebondissement que tu as deviné, cette fois-ci in extremis, mais quand même bravo.
Un épisode plutôt, hein.
C'est l'identité de Monsieur Tojamura, qui manigance quelque chose avec Ben et qui ensuite croise Pete. Donc, c'est effectivement les personnages qui sont toujours très proches de Catherine avant qu'elle
disparaisse. Oui, mais c'était avant qu'il croise Pete, donc j'ai plus de mérite. Merci.
Vous voyez, quand elle dit « Qu'est-ce que ça te fait d'être amie avec... » C'est juste hyper chiant, en fait. Parce que je peux même pas lui dire « Waouh, c'est impressionnant !» Elle l'a déjà dit 5 fois elle-même. Il n'y a pas que Marie qui est très forte pour prédire des choses. Parce que moi aussi, dans l'enregistrement de la semaine dernière, j'ai prédit quelque chose sans le savoir. Putain.
Non, mais ça coule.
Quel enfer.
Vas-y.
Le cliffhanger à la fin de truc, c'est qu'on a le Covid, toutes les deux. Bon, laquelle des deux ira en réa?
T'arrives pas avec ça. Attends.
J'arrive pas à respirer, tout d'accord. Je suis jinxée.
Voilà, merci de m'avoir porté la choucoumoune.
Salut Anaïs, salut Marie. Vous nous aviez demandé quelles étaient nos histoires par rapport à Twin Peaks. C'est une histoire qui commence début 2018. À l'époque, je connaissais pas du tout la série et il s'avère que je tombe follement amoureuse d'une fille un peu bizarre qui a un tatouage de bûche à la cheville et qui m'explique qu'elle est fan de Twin Peaks, tellement fan d'ailleurs que quelques mois plus tard, elle compte se rendre sur les lieux de tournage de la série et d'ailleurs qu'elle va m'emmener avec elle. Moi, pour pas être trop cruche une fois sur place, je me dis, je vais voir de quoi il s'agit. Et c'est là que je regarde pour la première fois les deux premières saisons de Twin Peaks. L'été arrive, on se rend effectivement sur place et on visite effectivement tous les lieux un peu emblématiques de la série. On va voir les restes de la Syrie, le bureau de police, le grand hôtel et sa cascade. On va manger une part de tarte à la cerise au Double R. Et c'est vraiment un très beau voyage. Donc la suite de cette histoire, c'est que on est 4 ans plus tard et je suis toujours dingue de la même fille, sauf que maintenant on habite ensemble dans une petite région de France qui ressemble un peu à Twin Peaks. Enfin, j'espère sans la Black Lodge dans la forêt quand même. J'espère. Et du coup, on vous suit déjà depuis la première saison avec Friends, mais là quand on a vu que vous alliez faire une nouvelle saison avec Twin Peaks, vous imaginez qu'on était très contentes. Donc maintenant, notre plaisir du soir, c'est de visionner les épisodes en même temps que vous, écouter le podcast chacune de notre côté, et ensuite on se débriefe ensemble ce qu'on a entendu. Donc on fait du ami de ami. Voilà, c'est notre petit plaisir du moment. Et je voulais vous dire merci de parler de cette série, de continuer à faire vivre un peu le culte autour de Twin Peaks. Parce que du coup, à chaque fois que j'en entends parler, ça me fait penser à la femme que j'aime et puis voilà, ça me rend heureuse. Et maintenant, j'ai très hâte que vous attaquiez la suite. J'ai très envie de voir qu'est-ce que vous allez en dire. Même si j'avoue que j'ai un peu peur pour Marie. Vraiment, j'ai un peu peur de ses réactions. Je croise les doigts. Mais voilà, j'espère que vous allez vous amuser autant que nous. Et puis, bonne continuation.
Au début, tu disais que tu ne comprenais pas du tout le sex appeal de Cooper. Je pense que tu as un peu changé de point de vue sur la question, non ?
J'ai totalement changé de point de vue. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir fait un lavage de cerveau, cette série.
Bon, j'avoue, maintenant, je le trouve beau, en fait.
Ah !
Non, ça y est. Tu me mets un mec moral, je peux pas résister, en fait.
Ouais.
Au début, je le trouvais pas repoussant, mais...
Presque.
Ouais, presque. Et là, je le trouve extrêmement attirant. Même s'il a toujours un petit côté un peu très jeune, qui rompt un peu son charme, mais quand même, déjà son côté un peu gentleman, enfin, ça fait très tradit de dire ça, mais vraiment, il a un côté où il respecte et où justement, il est assez moral, disons. Et ça, je trouve ça extrêmement séduisant. À un moment, je crois qu'il est en Marseille et on voit ses bras un peu quand il dort, ouais. Ou un truc comme ça. Et j'étais à un. Mais en même temps, son visage, c'est vraiment pas mon type, quoi, du tout. Mais c'est vrai qu'il a un certain charme. Enfin, vraiment, Kyle MacLachlan, là, je suis amoureuse. Hein.
Ah.
Cooper, torse nu, ouba.
Oh. Hello.
J'aime tellement Dale Cooper. Comme Audrey, je pense que le seul défaut qu'a Cooper, c'est qu'il est parfait. L'agent Cooper et Audrey, toute leur scène ensemble, c'est un bonheur. Je dois dire que c'est la seule chose qui me nourrit, qui nourrit mon âme et nourrit mon cœur en ce moment.
J'espère juste qu'il va se passer énormément de tensions sexuelles entre Cooper et Audrey. Maintenant, c'est tout ce qui compte pour moi.
Vraiment, c'est tout ce qui compte pour moi. Et pas seulement dans la série, dans la vie aussi. Cooper et Audrey.
On est de retour sur le...
Ah bah, ils m'ont... j'étais deprived pendant... des épisodes et des épisodes, là. Et là, la tension était à son comble. Hein.
Ouais.
Enfin, elle le chauffe clairement. Elle est amoureuse de lui.
Oui.
Et lui,
oui, je dirais pas qu'elle le chauffe, mais elle est...
Non, elle est amoureuse de lui, quoi. Et tu sens qu'il a des sentiments, mais qu'il doit rester dans son rôle d'autorité. Bon, clairement, je suis dans une réalité parallèle où, en fait,
c'est ça,
Twin Peaks...
Il se passe rien dans cette scène, c'est vraiment genre la surinterprétation de ouf.
Twin Peaks est en fait un roman d'amour que je m'invente entre Cooper et Audrey. Cooper est accusé d'un truc ridicule, mais je m'en fous, en fait, parce que le plus important, c'est qu'Audrey lui fait un bisou. Voilà, c'est la seule intrigue qui m'intéresse.
Je m'en doutais.
Il se passe pas grand chose dans ma vie en ce moment. Non, mais là vraiment, enfin, c'est rien, mais c'est tellement.
J'ai eu envie de faire un petit jeu en mode génie dans la lampe. En gros, je me suis dit que t'avais un jeton, t'as le droit de me poser une question sur le reste de Twin Peaks à laquelle je dois répondre et je peux donc te spoiler un truc de ton choix. Tu as une question et tu dois très bien la choisir parce que tu n'en auras qu'une.
Est-ce que Audrey et Cooper sont tous les deux dans la saison 3 de Twin Peaks?
Tous les deux ensemble?
Est-ce qu'ils partagent des scènes dans la saison 3 de Twin Peaks?
Non.
Oh bon, bah, j'abandonne. Hein. On arrête le podcast.
Non.
Je note quand même que tu ne m'avais pas proposé cette option avant la résolution du meurtre de Laura.
Bah non, parce que là, qui a tué Laura Palmer, merci quoi. Bon, on va passer à la minute théorie du complot. À ton avis, Marie, pourquoi Harold ne sort pas de chez lui?
Alors, moi, ma théorie, c'est qu'il a le syndrome du côlon irritable.
Parce que... C'est pour ça qu'il quitte la pièce à un moment et m'a dit rentre et
oui,
tout. C'est pour ça, en fait. Okay,
c'est ouais.
Parce que je me suis toujours demandé où il va. Parce que
oui, c'est ça. Mais disait... C'est ce moment-là où je me suis dit qu'il avait le syndrome du côlon irritable.
Il va rendre des cassettes? Qu'est-ce qu'il fait, en fait?
Non, mais exactement. Merci, tu as compris. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, déjà, il ne sort pas de chez lui parce qu'il a peur de ne pas avoir de toilette à l'extérieur, très clairement. C'est ma théorie. Et ensuite, au moment où il embrasse, d'un coup, il doit s'échapper. Mais c'est parce que d'un coup, il...
Ça se liquéfie, quoi.
Évidemment.
Je pensais que t'allais dire, genre, ouais, il y a un truc dans les bois.
Non, non, non. Il a le syndrome du côlon irritable, c'est sûr et certain.
Que murmure Mike à l'oreille de Bobby? À un moment, ils sont en train de discuter tous les deux et Bobby lui dit qu'il comprend pas trop pourquoi Mike est en couple avec Nadine. Il lui dit, je comprends pas ton intérêt soudain pour les fossiles. Et Mike, pour lui fermer le clapet, lui murmure quelque chose à l'oreille. Et la réaction de Bobby, c'est qu'il hurle en entendant ce que Mike lui a dit. Donc, quelle est ta théorie du complot, Marie? Qu'est-ce que Mike a murmuré à l'oreille de Bobby?
Peut-être qu'elle peut tenir beaucoup plus longtemps à quatre pattes. Ou sinon, j'étais là, peut-être qu'elle le pègue.
Je pense qu'elle peut, par exemple, s'agripper à lui et il peut plus s'extraire d'elle, tu vois, par exemple. Je sais pas, mais... Non, ou alors il lui a dit qu'elle est capable de nouer des queues avec sa langue.
Mais des vraies queues.
Pourquoi Josie est une poignée? Quelle est ta théorie?
Alors moi, ma théorie, c'est que quelqu'un dans la salle des scénaristes avait un business de poignée. Et que du coup, il a voulu faire un placement de produit dans cette scène. Et qu'ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut montrer cette poignée de tiroir de façon la plus puissante possible et la plus mémorable possible? Ils se sont dit, on va enfermer quelqu'un dedans. Et toi, c'est quoi ta théorie du complot?
Bah moi, je pense que... Une poignée, c'est quoi?
Je rappelle que Anaïs a eu 20 en philo au bac.
J'ai eu 19. J'ai menti longtemps en disant que j'avais eu 20, mais en fait, j'avais oublié.
Moi, c'était ma légende d'Anaïs, c'était qu'elle avait eu 20.
Mais j'étais persuadée que j'avais eu 20. Une poignée, c'est quoi? C'est un embout qui permet d'ouvrir, en l'occurrence, un tiroir, qui permet d'ouvrir une porte, qui permet d'ouvrir un meuble, une ouverture vers quelque chose.
Le bullshit que t'as dû étaler pendant tes copies à Sciences Po, quoi.
Donc moi, je pense que ça reflète une ouverture vers l'au-delà, vers un autre univers. On sait qu'il y a plein d'ouvertures surnaturelles dans Twin Peaks, et moi, je pense que la poignée reflète ça. Et qu'en fait, peut-être que via cette poignée, Josie incarne le passage vers une autre dimension.
Bon, un jour, je me nomme Nicolas. Merci à Anaïs et Marie pour leur formidable podcast sur le Twin Peaks.
Salut Anaïs, salut Marie, moi c'est Manu. Tout d'abord, je peux difficilement dissocier Twin Peaks de Mulholland Drive, un des films de David Lynch, parce que je pense que si je n'avais pas vu Mulholland Drive avant Twin Peaks, j'aurais eu sans doute eu beaucoup plus de mal en fait à rentrer dans Twin Peaks. Twin Peaks, c'est plus globalement David Lynch. Pour moi, c'est une fenêtre d'ouverture. C'est un accès vers quelque chose que je connaissais pas, vers de l'onirisme, une certaine forme de poésie, de pastiche aussi, qui va traiter du rêve, de la métaphysique, de plein de choses un peu cheloues, de la bizarrerie que je n'avais jamais vue au cinéma. Et David Lynch m'a préparé en fait vers une culture un peu plus complexe aussi, m'a ouvert l'esprit sur ce qui était possible de voir dans un film, et ce qui est aussi extraordinaire et complexe à la fois. Ça m'a donné envie de voir, d'apprécier ce qui a été créé après, les Lost, les Leftovers, toutes ces séries aussi assez autorisantes qui se sont inspirées de David Lynch. Je pense qu'il a installé dans mon cerveau et dans la pop culture une marche vers quelque chose de différent, de novateur, mais aussi quelque part de radical. C'est ça que j'aime beaucoup, mais en tout cas je vous embrasse et j'espère vous écouter très bientôt.
Dans l'épisode 2, on a droit à une des répliques les plus cultes de tout Twin Peaks. C'est le moment où Cooper goûte le café de Twin Peaks pour la première fois.
Oui, et ça, j'avais oublié de le dire dans l'épisode précédent, mais je le connais cette réplique. Donc, je l'ai pendant que j'ai regardé l'épisode, je l'ai dite à voix haute avant qu'il la dise. Donc, mais en fait, je me suis un peu trompée parce qu'il dit « a damn fine cup of coffee » et j'ai dit « a damn good cup of coffee ».
You know, this is, excuse me.
A damn good cup of coffee.
A damn fine cup of coffee.
Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Peak TV, où on analyse l'actualité des séries. Et vous pouvez entendre la fameuse réplique de Cooper dans le générique.
Mais c'est pour ça que je la connais.
Oh putain.
Ça fait 2 ans que je l'entends, en fait. Ok.
Ça a mis du temps à monter au cerveau. Qui est ton MVP cette semaine, Marie ?
Alors, mon MVP, c'est une dame qui apparaît dans Invitation to Love, dans une scène. Et en fait, elle est en train de toucher la tête d'un homme qui a les cheveux gominés. Elle le caresse et elle regarde sa main, qui doit être pleine du produit gras de ses cheveux gominés. Et elle a une mine de dégoût. Et après, elle continue à le caresser et elle s'essuie un peu sur lui. Et j'ai trouvé que c'était un moment génial parce que c'est tellement une petite touche, en fait, que tu peux louper très vite si tu regardes sans prêter trop attention. Et en même temps, c'est vraiment brillant, quoi, parce que c'est pas du tout un truc que tu verrais vraiment dans un soap opéra. Donc, il y a un petit décalage et c'est très marrant. Enfin, vraiment, ça, c'était ma MVP, c'est elle, quoi. Et toi, c'est qui ?
Moi, c'est le lama. À chaque fois, tu nous prépares un petit résumé des épisodes que tu viens de voir. Alors, en une minute, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans ces épisodes 5 et 6 ?
Alors, Jared a décidé de ne pas suicider et il a changé son testament pour léguer les tours à Jade au lieu d'Emerald.
J'ai mis 10 secondes à comprendre de quoi tu parlais.
Mais Emerald a découvert le pot aux roses, je ne vais pas continuer.
Donc là, tu nous fais comme Lucy, c'est-à-dire voilà. Que tu nous racontes Invitation to Love au lieu de raconter ce qui se passe vraiment.
Mais j'ai vraiment envie de voir Invitation to Love.
Pour se faire embaucher au One Night Jacks, le truc, c'est que la patronne Blackie est pas hyper convaincue par les atouts de séductrice d'Audrey. Et donc, Audrey doit la convaincre de l'embaucher. Et pour ça, elle sort son tour spécial, qui est de nouer une tige de cerise avec sa langue.
Je comprends pas pourquoi c'est censé être sexy de nouer une tige de cerise avec sa langue. Mais déjà, elle a l'air conne quand elle comprend. Visage de travers quand elle le fait. Non, mais explique-moi, parce que c'est juste parce qu'elle est douée avec sa langue, en fait.
Bah oui.
Mais enfin, t'as pas besoin. Enfin, je sais
bah,
pas.
C'est vraiment le niveau ultime. Bah oui, mais ça montre juste qu'elle a un niveau ultime de maîtrise de sa langue.
Waouh, c'est un peu. C'est le test ultime. Je vais
voilà,
essayer de le faire.
Qui
mais
est
bon.
La meuf la plus bonne, quoi.
C'est ça. Waouh, si c'est comme ça qu'on évalue les meufs. Il y a un moment, c'était drôle parce qu'il y avait Audrey qui faisait Daddy, Daddy, et Anaïs qui dit c'est moi avec tous mes mecs. Pourquoi est-ce que tout le monde a des daddy issues dans cette série ? On dirait une soirée chez Hugh Hefner. Qu'est-il arrivé
chez
à Cooper ?
C'est
vrai. Dans la tête d'Anaïs. Donc, c'est vraiment la deuxième...
Heureusement que mon père parle pas anglais et n'écoute pas ses podcasts.
C'est clair.
Il y a notamment une scène qui t'a traumatisée dans cet épisode. C'est le dîner de l'enfer où Leland et Sarah sont invités chez les Hayward.
Chez le meurtrier.
Voilà. Chez les parents de Donna. Et la petite sœur de Donna commence à jouer du piano.
Les petites sœurs de Donna sont insupportables. Déjà, comment elles la jouent ?
Moi, je les adore. C'est vraiment les premières de la classe.
J'ai eu 20 en maths, comme mes deux autres sœurs. Et d'ailleurs, j'ai été élue meilleure machin. Mais pourquoi elle a besoin de faire un speech comme ça pour dire ça aux parents de la fille qui vient de mourir, quoi ?
Moi, je faisais pareil. Alors, j'avais pas des parents dont la fille venait de mourir.
On te laissait t'exprimer devant tout le monde lors des dîners avec des amis.
Grave, je faisais des spectacles toute seule pendant que mes parents dînaient avec leurs potes. Je disais, j'ai préparé pour vous une chorégraphie. Je vais interpréter maintenant Bootylicious de Destiny's Child pour vous. Avec une chorégraphie pensée par moi-même. Oui, véridique à 100%.
Sérieusement ? Et tes parents, ils ne te disaient pas d'arrêter ?
Bah non, ils ne m'en regardaient pas. Ils continuaient à manger leur fromage, ils disaient ignorez là, c'est pas grave.
Ça explique tellement de choses.
J'aime l'attention. Vous ne le savez pas, mais Marie l'a gardée devant un écran sans qu'elle bouge ou qu'elle regarde son portable, c'est très compliqué.
Non, mais là, en plus, je gardais un chaton. Donc, oui. J'étais très dispersée et parce donc, que je le surveillais.
Voilà, à chaque fois, il se passait des trucs à l'écran et tu es là, mais oui, mais tu es trop mignon. Et vous allez entendre, ça me stressait un peu qu'elle rate des moments importants de l'épisode.
T'as raté le moment où ils ont montré qui avait tué Laura Palmer.
Tu devais être insupportable.
En même temps, si tu me donnais autant d'attention que t'en as donné à ce chat ou à Twin Peaks, parce que moi je m'en fiche, mais...
Non mais attends, je détournais le regard pendant une demi-seconde et je me faisais engueuler, quoi. Quand je me suis lancée dans cette aventure,
Putain.
Je pensais avoir signé pour des heures de scènes absurdes, pour des épisodes lents et incompréhensibles, pour des rêves chelous, des tartes à la cerise, des paysages pluvieux et peut-être quelques voyages interplanétaires ici et là. Je pensais que j'allais m'ennuyer, je pensais que j'allais me sentir stupide et dépassée, mais je ne pensais pas, franchement, que j'allais me retrouver face à la scène la plus traumatisante de l'histoire de la télé, un moment si cruel et tordu qu'il va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Je veux bien entendu parler de New Shoes. Alors, New Shoes, c'est le nouveau slogan de Léo qui passe ses deux épisodes à baver son porridge.
C'est horrible.
Pendant que Shelly et Bobby se roulent des pelles sous ses yeux. C'est vraiment horrible. Et pourtant, j'ai très peu de sympathie pour lui.
N'oubliez pas, si vous avez besoin de vous maquiller ou de vous coiffer, vous pouvez toujours utiliser Léo comme porte-miroir.
Oui, je l'avais dans mes notes.
Il est hyper pratique.
C'est vrai.
L'autre, c'est sûr, il peut marcher depuis des semaines, il se foutait de sa gueule pour aller voir.
Je suis tellement contente qu'on fasse ce podcast. Franchement, j'adore t'entendre parler de Twin Peaks et te voir réagir à Twin Peaks. C'est génial. C'est un grand cadeau.
Mais j'aime beaucoup regarder Twin Peaks.
On s'était dit qu'on ferait un petit Fuck, Marry, Kill, qui est un jeu qui consiste à donner trois noms et à dire avec qui on couche, avec qui on se marie et qui on tue. Donc, il faut choisir entre trois personnes. J'ai, si tu veux, pour toi, un Fuck, Marry, Kill édition de l'enfer.
Ouais.
Windham Earl, Léo pré-légumes et Léo post-légumes.
Fuck Windham Earl.
C'est vrai qu'il est funky, il adore les déguisements en plus.
Et il va se passer des trucs, tu sais que ça va être intéressant. Kill Léo pré-légumes. Et Marie, Léo post-légumes, il n'y a pas de problème.
Il te crache de la bouillie dessus tous les jours quand même.
Mais non, mais moi, je ne suis pas une folle. Moi, je le mets dans un centre médicalisé et on s'occupe de lui, quoi. Enfin, tu plaisantes ou quoi ? Et moi, je vis ma plus belle vie.
Avec pas d'argent, comme Shelly.
Bah non, parce que moi, je travaillerai, parce que je ne serais pas en train de m'occuper de lui.
C'est vrai. Bon, édition de l'extrême. Fuck Marie Kill. Jean Renaud, Jacques Renaud, Bernard Renaud.
Je ne sais même pas qui est qui, en fait. C'est Jacques Renaud qui est mort à l'hôpital, là.
Ouais.
Ah bah, lui, je le tue.
Ah, moi, c'est celui que j'épouse direct.
Le premier, on l'a jamais connu. Je le fuck, c'est pas grave.
Que tu es cavalière avec ta vie sexuelle, Marie ?
Bah, écoute, entre les trois, il faut choisir. Et l'autre, je l'épouse parce qu'il est plein de ressources quand même. Le troisième, je sens que j'aurai une vie quand même au niveau financier. Il pourra contribuer à mon...
Ah, moi, il me dégoûte. Je le tue direct, en fait. Jean Renaud, c'est le pire, quoi.
Jean Renaud was tended more.
Jacques Renaud.
Not Jacques Renault.
All right, bring the boys. You can have the body all day tomorrow.
How much does Jacques pay you to be the mule?
Jacques don't pay me nothing. I'm no mule.
So then I'll see you.
I am French. I speak like this. That's right.
Ok, Marie Schwarzenegger.
Blackie est associé avec un troisième Renault, qui est Jean Reno.
Franchement, c'est la famille la plus, la québécoise la plus malfaisante de l'histoire, quoi. Enfin, c'est vraiment prolifique et malfaisante, quoi. C'est incroyable. Les frères Reno, donc là, il y en a un troisième.
Jean Reno. Is he the father?
Yeah, Bernard.
Yeah, Jean. Is he the papa de Jacques et Bernard?
Il n'est pas le papa.
Tu sais, après, plus tard, il y aura aussi Jean-Paul et Jean-Pierre.
C'est vrai?
Non. Pour citer le grand Jean Reno, Everything gonna to be fine. Dans mes notes, j'ai écrit « Josie, c'est vraiment une topu. »
Non, Pete.
Elle est insupportable.
Elle est insupportable.
Genre, Josie, elle a grandi à Hong Kong et elle sait pas parler anglais. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche, là, tu vois. Parce qu'à Hong Kong, quand même, c'est une des langues principales, c'est l'anglais. Et le fait qu'elle se trompe sur toutes ses expressions et tout ça, je pense qu'elle surjoue un peu sa non-maîtrise de la langue.
C'est un peu la Jane Birkin de Twin Peaks. Tu dis, au bout d'un moment, meuf, tu sais parler, en fait. Tout ce qui se passe avec Josie, je comprends pas. J'ai revu cette série des milliards de fois. À chaque fois, je suis là, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe avec Josie? Je m'en fous de ouf, en fait, vraiment.
Ah ouais.
Pour moi, c'est le pire de Twin Peaks, quoi.
Pour moi, James est pire que Josie, quand même.
Ah ouais?
Mais James, vraiment, on va l'entendre, mais je n'en pouvais plus. Mais dès le début, dès que j'ai revu sa sale tronche, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi?
Oh non, pas lui.
Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une théorie du complot, quand même, sur pourquoi toutes les meufs sont amoureuses de James.
Ah non, mais je ne comprends pas. Enfin, vraiment, c'est peut-être parce qu'on dirait un mur blanc sur lequel projeter tout ce que tu peux, mais je sais pas. Enfin, le mec est inintéressant,
c'est
possible.
C'est clair, surtout son front.
James écrit les cartes postales les plus chiantes de l'histoire. Tu m'as fait rire pendant le visionnage où tu imaginais que James, que la carte postale de James avec plein de fautes d'orthographe.
Qui dit bonjour Donna. Je suis au Mexique.
Mon Dieu. Au moins, Dick Tremaine et Andy et Lucy ont la gentillesse de ne pas être là très souvent. James est là pour un bon quart de chaque épisode de cette série d'épisodes. Pourquoi? Bon, James, on l'a dit, est malheureusement toujours en vie, et toujours dans cette série, je n'en peux plus. James, il est dans la saison 3, tu peux me le dire ça?
Oui.
Ah non. Non.
Bienvenue dans l'émission où tous les pires cauchemars de Marie se réalisent.
Oh là là. Oh mon Dieu, quel enfer.
Bonjour Marie et Anaïs, je vous fais ce petit vocal suite à votre dernier épisode sur le podcast Ami que je dévore toutes les semaines, surtout depuis que vous faites la série sur Twin Peaks, parce que pour moi, Twin Peaks c'est plus qu'une série, c'est une religion, c'est ce que je dis à tout mon entourage, ils en peuvent plus de moi. Alors c'est vrai que Twin Peaks ça a eu un impact très fort dans ma vie depuis que j'ai commencé à regarder l'épisode, je me souviendrai toute ma vie. Mes parents étaient en train de regarder parce que mes parents sont de vrais fans de Twin Peaks, donc c'est grâce à eux que j'ai découvert. Alors c'est l'épisode où Andy est au téléphone, il est sur la scène de crime, il est en train de pleurer et j'ai tout de suite été attachée à l'ambiance, à la bande originale, à l'histoire. C'est vrai que j'étais très jeune à ce moment-là, je sais plus quel âge j'avais peut-être 11-12 ans. Et en fait, je suis restée derrière le canapé à regarder la série avec eux, debout. En fait, j'étais complètement fascinée, je ne saurais pas l'expliquer. J'étais complètement fascinée et puis après, bah, les épisodes se sont enchaînés et je les ai dévorés. C'est vrai que je suis une grande fan de café aussi, donc comme vous le savez, c'est une religion dans Twin Peaks, le café bien noir. Et mon plus grand rêve, c'est de visiter les lieux du tournage, donc j'espère le faire avant ma mort. Donc voilà, j'espère que cette petite note vocale va donner envie aux gens de regarder cette magnifique série. Et puis bravo encore pour votre analyse plus que constructive de la série. Étant une grande fan, j'en ai moi-même appris beaucoup de choses, donc merci à vous deux.
J'étais surprise par le niveau de cruauté de cette mère qui est capable d'écrire une critique gastronomique négative sur le restaurant de sa fille, c'est horrible.
J'admire sa déontologie. Bravo.
C'est comme la femme de Blanquer qui anime un débat.
Exactement.
C'est la
Exactement, moi je trouvais ça hyper déontologique. Le seul truc qui n'est pas déontologique, c'est de ne pas signaler qu'il y a un conflit d'intérêts. Et à la place de la mère de Norma, comme à la place de la compagne de Blanca, j'aurais dit non en fait, enfin donner ce gig à quelqu'un d'autre. Mais bon bref, on va s'abstenir de tout commentaire politique.
C'est comme quand t'as un crush sur un prof beaucoup plus vieux. En fait, dans l'imaginaire, c'est fun, oui, mais oui, dans la réalité, c'est ultra glauque. Là, ça aurait pas été ultra glauque, mais ça aurait quand même pas été...
Big up à Brigitte.
Oh, elles sont demi-sœurs.
Sarma, elles sont demi-sœurs.
Il y a l'accent pied-nord de ma grand-mère qui est remonté, là.
Ça, Twin Peaks, si je mens.
I'm a virgin. I want you to make love with me.
Hear it now.
It's your dad.
What the fuck? Mais enfin. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas. I'm a virgin. Il y a David Bowie? Oh mon Dieu! Sérieux?
La meilleure réplique.
Il ne pouvait y en avoir qu'une. Dans la scène où James et Laura s'embrassent.
Elle lui dit « Je suis déjà très loin, comme une dinde dans un champ de maïs. »
Voilà, donc déjà l'analogie de merde. Et lui, il lui dit « Mais non, t'es pas une dinde. » Et elle dit « Mais c'est un animal très bête ou un truc comme ça. » Et lui dit « Non, non. » Et elle lui dit « Gobble, gobble. » Ce qui en anglais est l'onomatopée pour le bruit de la dinde. Je sais même pas ce que c'est en français, en fait. C'est juste qu'en anglais, ouais, tu le sais parce que c'est tout un Thanksgiving. Voilà.
Je suis très forte pour imiter la dinde.
On a des extraterrestres, on a peut-être des vampires, on a des hiboux maléfiques, une bûche qui parle, et maintenant une femme bionique.
C'est vrai que ça fait beaucoup.
Où est-ce qu'on s'arrête, quoi?
Boring. C'est nul.
Je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder la série.
Pour l'instant.
Mais arrête de dire ça, elle est toujours en train... Tu veux pas te jinxer, donc tu fais que prédire que je vais pas aimer, quoi.
Bah écoute, si tu adores ce qui arrive, j'en serais ravie. On est dans le pire du pire du pire de Twin Peaks.
Mais ça continue dans le pire du pire du pire. J'en peux plus, là.
Je te laisse la surprise. Du coup, bah, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, les amis.
Je veux qu'on arrête le podcast, Alice. J'en ai marre. C'est my breaking point.
Je me dis, c'est peut-être un exercice artistique aussi, ou une espèce de performance un peu absurde où ils essaient d'atteindre le truc le plus nul possible et que ça deviendra tellement nul que ça en deviendra beau, tu vois.
On va rester sur cette théorie. Ça rendra tout le reste plus facile.
Voilà.
Non, mais sur quelle planète est-ce que c'est considéré comme intéressant? Où est-ce que... Quand? Pourquoi?
Ils avaient vraiment besoin de meubler, hein. On s'emmerde un peu quand même dans cet épisode, hein.
Oh non. Oh non. J'aime pas. Je veux que ça s'arrête. C'est... Mais... Rassra, comme disent...
Mais...
C'est tellement frustrant. Oh là là!
Ah, il a un pink eye, Eckhart. Il a une conjonctivite, l'acteur.
Ah ouais?
Ouais, il a un œil tout rose.
Comme s'il manquait plus que ça, quoi.
Franchement, quoi.
Déjà, les épisodes sont à chier. Mais du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aimes encore la série ou tu n'aimes plus Twin Peaks?
Je parlerai pas en termes d'absolu comme ça, est-ce que j'aime ou pas quelque chose.
Ok, Edouard Baird.
J'allais dire, c'est ça qui est drôle.
Moi, je me laisse porter par le flow, par la vibe, tu vois.
Toi, t'es une Californienne, quoi.
Non, mais je pense que je suis un peu comme David Lynch, tu vois. Je me laisse porter par les sensations. Et là, en l'occurrence, c'est des sensations désagréables depuis quelques épisodes. Mais tu vois, je sais pas, je prête pas trop attention à la logique.
Parfois, je me demande comment ça fonctionne dans ton cerveau. Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est comme jeter des trucs sur un mur, tu vois, un peu comme du Pollock, du Jackson Pollock? Alors que moi, c'est un fichier Excel, quoi.
Il y a un truc que j'ai lu sur un forum de fans aussi de l'époque où une meuf avait dit les qualités qu'il fallait pour apprécier Twin Peaks. Et ça m'a trop fait rire quand je l'ai lu parce que je me suis dit, on dirait la description inverse de Marie.
Je sens que je vais être hyper flattée. Vas-y.
Non, alors le premier truc que tu as, clairement, elle dit, c'est une bonne mémoire pour les détails.
Oui, bon,
ça,
c'est
tu l'as. Moi, pas du tout. Et après, elle dit, une autre chose qui est nécessaire, c'est une capacité de concentration sur la durée. Et enfin, une tolérance à la frustration et la capacité à attendre pour obtenir satisfaction.
Tous les gens qui regardent Twin Peaks devraient avoir une Anaïs avec eux pour comprendre ce qui se passe et atteindre le niveau supérieur.
Merci d'avoir écouté ce petit épisode bonus. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le grand retour d'Amis avec Twin Peaks The Return épisode 1 et 2. Si vous découvrez Twin Peaks ou Twin Peaks The Return en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode bonus d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. Salut!
Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.
Marie, quand on regardait la saison 2 de Twin Peaks, on avait invité Sofiane du podcast Lynchplaining pour discuter avec nous et je lui ai parlé un petit peu en ton absence et tu vas l'entendre, il était comme moi, très impressionné par tes qualités de détective. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans les réactions de Marie ou dans ses prédictions?
Bah en fait, je me suis rendu compte d'un truc, parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai découvert, qui a tué Laura Palmer, et je me suis rendu compte que dans ces épisodes-là, ils donnent pas assez de fausses pistes, ils te mettent qu'une seule piste. Quand l'épisode commence avec Daddy, machin, lui qui dit qu'il connaissait Bob, tu vois qu'il a perdu un peu les plombs, ses cheveux sont devenus blancs. Enfin, tu commences à te dire, ok, ouais, c'est soit lui, et tu dis, mais qui d'autre?
Mais elle est impressionnante quand même dans ses prédictions, hein, parce que c'est vrai que là, en voyant les épisodes, je me dis, bon, bah oui, ça devient de plus en plus évident que c'est Leland, mais honnêtement, ça fait quand même longtemps qu'elle a émis pour la première fois l'hypothèse que ça serait Leland. Et franchement, quand elle en a parlé, je me suis recroquevillée sur mon siège. J'étais là, oh putain, comment elle a fait, quoi?
Elle a tout de suite trouvé que bah, il est très certainement possédé par Bob. Enfin, elle pense que c'est de la folie, mais bon, elle n'est pas très loin.
Moi, j'en ai un peu marre qu'on dise qu'il y avait plein d'indices et qu'ils n'avaient pas mis assez de fausses pistes, parce que je pense que le juge était très, très doué.
Il y avait plein d'indices.
Mais évidemment qu'il y avait plein
d'indices. C'est la seule personne au monde à avoir découvert.
Oui, il y avait plein d'indices.
Je lui ai aussi demandé quel était, selon lui, le moment le plus clivant de Twin Peaks.
Just You, c'est déjà passé?
Ouais, c'est déjà passé.
Ok,
ouais.
Bon, bah, il y a Just You déjà, qui est quand même assez. Oh
non, mais vraiment, le mec qui se met à jouer de la guitare pour séduire des meufs. Interlude musical là. Oh là là.
Ah, Josie qui se transforme en poignée de porte. Ah, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que Josie qui se transforme en poignée
c'est
de
clair,
porte.
C'est clair, c'est clair.
Enfin, en poignée de
tiroir. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que elle est hyper pragmatique. En fait, Marie de base, c'est pas du tout son univers.
D'ailleurs, pas très onirique.
Bah, moi, je découvre que en fait, elle est hyper cliente de ce genre de truc, alors qu'à la base, je pensais qu'elle allait détester, et je pense quand même qu'elle va détester tous les épisodes de merde de la saison 2. Mais globalement, je suis très surprise par son appréciation et justement toutes ses analyses et le fait qu'elle est rentrée à fond dans la série, même si on sait que c'est une excellente série. Enfin. Comme moi, je me dis, je suis pas objective parce que je suis une fan de Lynch. Ouais. Donc parfois, j'ai du mal à me dire qu'une personne totalement extérieure à cet univers pourrait rentrer dedans. Et en fait, là, on a la preuve que.
Oui, si. Bien sûr, mais il faut tout de même un petit peu prendre la main de la personne. Enfin, souvent avec Twin Peaks, c'est un peu ça.
Moi, je pense que je suis assez onirique. Je veux dire juste ça. Hein. Je peux être très onirique, d'accord. Par exemple, je sais pas, j'ai
lu le des rêves la nuit.
Je fais des rêves la nuit qui sont très oniriques. Et puis voilà, le discours de dire que je découvre un nouveau cinéma ou des choses comme ça. Je pense que quand quelque chose est bien fait et bien écrit et bien réalisé et que c'est du bon cinéma ou de la bonne télé, que ce soit mon univers, un univers vers lequel je serai attirée naturellement ou pas, ça ne change pas. C'est-à-dire que je vais quand même apprécier quelque chose à sa juste valeur et c'est ce que j'ai aimé chez Twin Peaks. Après, oui, c'est vrai que ce qui m'a surprise, c'est qu'il y avait des choses qui me parlaient. C'est l'humour qui me parlait, en fait, parce que si je suis pas du tout sensible à tout ce qui est sombre ou des choses comme ça, j'ai tendance à être très ouverte au niveau des différentes formes d'humour qui me parlent et qui me font rire, aussi bien les trucs absurdes que dark ou que des trucs physiques. J'aime beaucoup rire, en fait, donc je suis cliente surtout. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu dans Twin Peaks. J'aime beaucoup aussi les trucs esthétiquement plaisants. Mm. Et je trouvais ça très esthétiquement plaisant à la base. Et c'est ça qui m'a plu aussi dedans. Je pense que c'est une bonne série, donc forcément, j'ai bien aimé.
Et enfin, je lui ai demandé ce qu'il imaginait pour ton futur visionnage.
Eh ben, j'ai envie de dire, si t'aimes pas James, là, comment dire? Une fois que James va monter sur sa moto, je vais te dire que là, accroche-toi, quoi. D'ailleurs, quand on avait fait Lynch Planning, on avait fait donc la saison 2, on faisait deux épisodes par deux épisodes comme vous faites. Et on passait tous les passages de James.
Ah ouais, carrément.
Oui, c'est à ma demande. J'ai dit, on ne fait pas James. Et en fait, tu calcules que James, il n'est pas du tout relié au plot de la saison 2 d'aucune manière.
Ah oui, pas du tout.
Ouais. Et donc, tu peux complètement enlever tout ce qui se passe avec Evelyn, les machins, les bidules. Tu t'enlèves tout et il n'y a aucune différence dans l'histoire.
C'est vrai, mais il ne faut pas dire ça à Marie parce que sinon, on ne va clairement pas regarder toutes ces scènes-là.
Bah, ça confirme ma théorie selon laquelle James est le scénariste de la deuxième moitié de la saison 2.
C'est clair.